Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 juin 2021 et aujourd'hui on va parler marionnettes, clowns, cirque et Muppet Show puisque c'est un peu le résumé de la journée, de ces derniers jours de trading et du comportement psychologique des marchés boursiers actuellement. Mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que le 24 juin, c'est-à-dire dans 2 jours comme aujourd'hui, il y aura le Swiss Code Trading Days qui prendra lieu malheureusement encore par vidéo feed, entre guillemets. On sera en direct depuis le PFL. Vous pourrez assister en live depuis vos écrans et vous pourrez poser vos questions. Ça va durer de midi à 6h jeudi après-midi et il y aura plein d'invités. Et évidemment, je serai là aussi pour garder la flamme allumée toute l'après-midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez les modalités d'inscription gratuites sur le site suissecote.ch. En direct, vous verrez, il y a un lien. C'est assez facile à trouver. Voilà, reparlons un petit peu des marchés boursiers. C'est une journée assez particulière qu'on a vécue hier, puisque hier matin, si vous étiez déjà là dans ce podcast, eh bien, vous devez vous souvenir que je vous parlais fin du monde, crash boursier, hausse des taux et catastrophe financière à venir. Et puis, en fait, hier, tout a changé de direction entre le moment où j'ai publié mon podcast et ma vidéo du matin. Eh bien, les futurs sont passés de moins quelque chose à plus quelque chose et tout a tourné. Résultat, fin de journée, explosion sur le Dow Jones qui vit sa plus belle journée depuis le mois de mars. Le S&P 500 a explosé la moyenne mobile à la hausse, celle des 50 jours. Alors qu'il l'avait explosé à la baisse vendredi dernier. Donc du coup, on est reparti, c'est formidable. On se posait la question de savoir quand est-ce qu'on allait crasher pour de bon. Et là, on se dit, mais quand est-ce qu'on va casser les plus hauts historiques sur le S&P 500 ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, nous sommes passés de « Oh my God !» à « Tout va bien dans le meilleur des mondes ?» Eh bien, la raison est assez simple, c'est qu'en fait, finalement, on a baissé principalement en dehors des jobless claims de jeudi dernier, sur les commentaires de la Fed et l'interprétation qu'on en a fait. Et comme d'habitude, nous sommes tellement fragiles psychologiquement que l'interprétation de certains mots peut avoir des conséquences catastrophiques ou violentes ou en tout cas angoissantes comme on a pu en avoir en fin de semaine. Et puis, le lundi matin, les gens de la Fed se sont concertés pendant le week-end. « Ouais, mais qu'est-ce que t'as dit, toi ?»« Puis oui, puis toi, qu'est-ce que t'as dit ?»« Puis alors, puis toi, qu'est-ce que t'as dit ?»« Ouais, mais faut qu'on leur explique qu'ils n'ont pas bien compris. » Donc, résultat, ils ont tous repris le micro hier matin. Et donc, on a appris, pour faire simple, que Monsieur Powell a dit que l'inflation, il y aurait de l'inflation, toujours et encore, qu'elle va probablement se résorber, mais pas aussi simplement que prévu, donc il y aura quand même un peu d'inflation. Deuxièmement, la hausse des taux, ça c'est clair, il est parvenu dessus, parce qu'on est encore un peu trop fragile psychologiquement. Par contre, il a dit qu'en gros, il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'économie américaine, sous-entendu les bourses américaines, et qu'il serait toujours là jusqu'à que l'économie est complètement récupérée de la crise du Covid et de toutes les crises de ces 150 dernières années. Donc en gros, Powell a réitéré son soutien à l'économie, mais encore une fois, à l'économie, on s'en fout pas mal. Ce qui nous intéresse, c'est surtout au marché boursier. Donc il a réitéré son soutien, ce qui a soulagé les marchés. En dans la foulée, vous avez Monsieur Williams de la Fed de New York, le patron de la Fed de New York, qui est venu dire qu'il était beaucoup trop tôt pour envisager le moindre tapering, ce qui nous angoissait aussi, le fait qu'ils puissent arrêter leur rachat obligataire. Donc Monsieur Williams ça a rassuré. Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est trop tôt encore. Donc deuxième bonne nouvelle. Et puis troisième bonne nouvelle, Monsieur Bullard, donc celui qui nous avait dit vendredi que c'était quasiment une certitude qu'ils allaient commencer le tapering en automne, ou en tout cas d'ici quelques semaines ou quelques mois, eh bien il est revenu en disant que oui, mais bon, en fait, ce qu'il voulait surtout dire, c'est que, eh bien, il était content que les membres de la Fed aient pris le temps de discuter de cette problématique de tapering lors du dernier meeting. Mais bien entendu, ça ne sous-entendait en aucun cas le fait qu'ils allaient commencer à faire quoi que ce soit. Bref, en gros, pour faire simple, le mec, il s'est un peu remarché dessus par rapport, et il a corrigé les angles de ce qu'il avait dit, enfin, il a amélioré son expression orale, et puis surtout, on a appris en plus, parce qu'on avait oublié d'en parler vendredi, moi aussi d'ailleurs, je le savais même pas, Monsieur Belard n'est pas un membre votant de la Fed en 2021. C'est-à-dire que si, lors du prochain meeting de la Fed, il décide, il met au vote la possibilité de démarrer un tapering et de ralentir ses achats obligataires, eh bien, il a même pas le droit de voter, de donner son avis. Donc un peu, c'est un peu comme le supporter de foot ou bien le remplaçant du troisième gardien remplaçant de l'équipe de foot de la Suisse pour l'Euro 2020 et que bah, le gars il dit oui moi j'aurais fait comme ça mais enfin tu joues pas donc c'est la même chose. C'est un peu pour le même principe, Monsieur Bullard ne joue pas, Monsieur Bullard est un supporter qui est dans les gradins mais il donne quand même son avis et le marché l'écoute et c'est ça le pire. Donc en gros pour l'instant on a un peu l'impression que la Fed applique la méthode Elon Musk, hein. Bon ils font pas des tweets mais ils font des commentaires qui sont mal interprétés puis qui font bouger le marché à peu près à la mode du Bitcoin avec un peu moins d'amplification. Mais bon bref, comme ils sont de la Fed on peut pas leur dire qu'ils manipulent le marché, ils font simplement leur boulot, pas super bien en ce moment mais ils le font en tous les cas. Bref, c'est un rebond général un peu partout en Europe, hein, donc en Europe, aux États-Unis, tout va bien. Ah, si c'était quand même que Madame Lagarde a dit plus ou moins, je pense qu'en fait, Powell, ce qu'il a dit hier, il a envoyé une copie de son discours à Madame Lagarde, et elle a dit exactement la même chose, hein, qu'elle fera whatever it takes to, pour soutenir l'économie européenne et les bourses européennes. Donc voilà, journée de rebond hier, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça en début de matinée. Et puis, visiblement, on n'a pas très très bien interprété ce que la Fed voulait nous dire la semaine dernière. Alors, pour l'instant, tout est calme, les futurs sont en hausse, et on est plutôt positif pour l'avenir. Sujet du jour, deuxième sujet du jour, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin est de nouveau à 32 000. Alors, c'est assez marrant. Hier, il était déjà à 32 000, il est remonté un peu pendant la journée, il s'est repris une tôle hier soir. Il est nouveau à 32 000. De nouveau, on parle de réglementation. Bon, on parle de la Chine qui est très agressive vis-à-vis des miners qui sont chez eux. Visiblement, la réglementation aux États-Unis, elle arrive à la vitesse d'un tsunami au galop. Donc, on voit quand même que les choses vont partir en sucette assez rapidement. On pourrait partir en sucette assez rapidement pour les cryptos. Néanmoins, il y a quand même une certaine résistance de la part du Bitcoin qui ne veut pas céder. On notera que l'Ether est repassé en dessous des 2 000 $. Mais le Bitcoin, lui, ne veut pas rendre les armes, à signaler quand même encore une fois la dead cross dont tout le monde se fout qui est apparu sur le chart ce week-end et puis le support à 29 900 qu'il ne faudrait pas casser sinon je pense que là ça sera ouvert la porte, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres en direction des 20 000 sur le Bitcoin mais pour l'instant ça tient. On ne sait jamais, il peut toujours avoir Monsieur Musk qui va nous sortir un tweet en disant « Oui, alors j'ai vérifié, les miners, ils sont tous complètement ESG et puis responsables de l'environnement. Résultat, on peut reprendre du Bitcoin pour acheter des Tesla. » Bref, on verra ça ces prochains temps, mais en tout cas, on repart du Bitcoin, des réglementations et de la Chine qui s'en prend encore une fois à toutes ces crypto-monnaies. L'idée du jour, c'est Ferrari. Alors, Ferrari, vous pourrez regarder le chart, c'est un peu plus parlant avec le chart devant les yeux. Et je vais en parler également dans la vidéo tout à l'heure, donc vous verrez aussi, voilà, si jamais vous pouvez aller voir sur la chaîne Swissquote Suisse, ce que j'entends par le chart. Donc, le chart est revenu en bas de son canal, le titre a perdu quasiment 30 $ ces derniers temps. La raison principale étant un downgrade de Goldman Sachs qui est passé de buy à sell sur Ferrari. La raison principale étant qu'ils ont peur que Ferrari ne soit pas capable de développer une voiture électrique parce que ça risque de leur coûter trop d'argent. Alors bon, d'abord je pense qu'ils en sont tout à fait capables, ça prendra peut-être le temps qu'il faudra, mais de toute façon je pense que Ferrari ne mise pas son avenir sur les voitures électriques, même si ça va faire partie du jeu ces prochaines années. Si vous regardez un peu l'évolution de la marque, c'est une marque qui a toujours été pour son prestige, évidemment vous le savez tous. C'est une marque qui est impossible, quasiment impossible à acheter comme vous en voulez une, même si vous avez les moyens. Bref, ça devient un club ultra fermé pour pouvoir avoir accès à ce genre de voiture. Donc, je veux bien croire que la problématique de la voiture électrique va être un problème qu'ils vont rencontrer, que ça va leur coûter de l'argent. En même temps, quand on voit ce que leur coûte le développement de la F1 qui fonctionne pas en F1, eh bien, on peut se dire qu'ils ont encore pas mal de fric à investir là-dedans. Bref, moi, j'aime beaucoup le produit, j'aime beaucoup la marque. Et je pense qu'aujourd'hui, après le repli qu'elle vient de se faire, en revenant sur le bas de son canal haussier, on peut en acheter en essayant de jouer un rebond en direction des 219,5 pour être très précis. Et puis, si vraiment ça devait tourner vinaigre, on peut se couper en dessous des 190 dollars. Voilà, donc idée de jour Ferrari. Question du jour maintenant. La première question, une personne me dit, j'avais acheté des actions Overstock. La société a payé des dividendes sous forme d'actions privilégiées de série A1 à vote numérique. Je ne savais même pas que ça existait. Je possède 70 actions qui valent à ce jour 82 dollars, mais j'essaie de les vendre sans succès. Toutes mes transactions sont rejetées. Comment trouver un broker sérieux qui pourrait faire la transaction? J'en ai trouvé deux aux États-Unis qui s'appellent choicetrade.com et dinote0.com. Est-ce sérieux d'investir, d'ouvrir un compte dans ce genre de société? Alors, vous voyez mon sponsor aujourd'hui, eh bien, c'est Swissquote, donc je ne connais pas déjà ces brokers-là, donc je ne vais pas donner d'avis là-dessus, parce que de toute manière, je pense que la solution ne passe pas par là. La solution passera par le fait de votre banque actuellement, qui est votre banque, quelle est votre plateforme, et il faut leur demander à eux de vous trouver une solution pour les sortir. Ce sera beaucoup plus simple que d'aller ouvrir un compte, transférer vos actions Overstock de l'autre côté pour pouvoir ensuite les vendre aux États-Unis. Moi, j'irai me renseigner directement auprès de votre plateforme, de votre banque, pour que eux vous aident. Alors, je sais que selon les plateformes et selon les banques, c'est jamais très facile d'avoir une réponse, mais il faut insister parce qu'à mon avis, si vous ouvrez un compte aux États-Unis, déjà, je vous laisse imaginer la complexité d'ouvrir un compte aux États-Unis pour un Européen, enfin, pour autant que vous êtes en Europe. Et ensuite, pour pouvoir les vendre derrière, ça va être la galère de chez galère. Donc, moi, je taperai à la porte, je téléphonerai, j'enverrai des emails à ma banque ou à ma plateforme pour avoir une réponse. Eux doivent être capables de vous trouver une solution pour vendre ces actions. Effectivement, c'est des actions privilégiées et de série A1, donc c'est assez spécifique. Donc, ça ne se vend pas n'importe où. Mais si on vous les a mis sur votre dossier, la banque qui vous les a mis sur le dossier est censée être capable de vous les vendre. Donc, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de vous adresser déjà à votre banque principale avant d'aller chercher sur ces plateformes de trading bizarroïdes aux États-Unis. Deuxième question du jour, que pensez-vous de la société Opium SA, le fabricant de voitures? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Opium SA est une voiture qui a été fabriquée de zéro par un ancien pilote de course et qui fonctionne à l'hydrogène. 3 minutes pour la charger, 1000 km d'autonomie, 230 km/h de vitesse de pointe, estimée à 120 000 euros à la production. Vous pouvez déjà la réserver moyennant 410 euros. En allant sur le site, qui d'ailleurs est très long à mon avis. Et puis, donc voilà. Après, la voiture est censée être en circulation en 2025. Donc pour l'instant, il ne faut pas s'attendre au fait qu'ils vont gagner des montagnes de fric. Et quand vous regardez le graphique, que je ne peux malheureusement pas vous montrer dans le podcast, eh bien ça ressemble exactement au genre de graphique que je ne touche jamais, parce que pour l'instant, c'est vraiment juste un ticket de loterie. Donc voilà, ce que j'en pense au niveau investissement. J'achèterais volontiers de l'opium en disant ben, je mets 1000 euros dedans, 2000 euros dedans, en disant on verra bien dans 3 ans. Par contre, ça peut valoir le 10 fois plus ou plus rien. C'est clair que développer une voiture aujourd'hui à hydrogène, c'est révolutionnaire. On a vu les premières images de la voiture, c'est un prototype pour l'instant. Elle est magnifique, absolument magnifique. Franchement, c'est une des plus belles voitures non à essence que je vois à l'heure actuelle. Je la trouve vraiment fantastique. La couleur noire mat qu'ils ont mis est exceptionnelle. Le dessin lumineux des phares est fantastique. Donc de ce côté-là, ça donne envie, mais ça donne envie d'investir en disant je mets 1000 euros ou quelque chose que j'ai pas besoin, comme un ticket de loterie pour dans 2-3 ans. Parce qu'avant 2025, on n'aura absolument aucune vision des éventuelles performances financières de la société. Pour l'instant, ils sont qu'en train de bouffer du fric pour développer la voiture. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Si vous voulez faire un placement de faire famille, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. C'est un truc hyper spéculatif. Par contre, c'est vrai, si ça pouvait marcher, eh bien, ce serait assez sympa de l'avoir sur les routes à la fin. Et je serais impatient de pouvoir mettre les mains sur le volant de cette magnifique voiture un de ces jours. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Donc, je vous souhaite 1. une excellente journée. 2. N'oubliez pas de vous inscrire aux Swissquote Trading Days qui auront lieu jeudi. On est directement sur le site de Swissquote. Et puis moi, je vous retrouve demain matin. Passez une très très belle journée.